I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cette bande originale de John Williams, vous l'avez entendue la première fois peut-être il y a 20 ans, quand la toute première adaptation cinématographique du roman à succès Harry Potter est sortie au cinéma. Depuis, la saga a pris une ampleur internationale folle, à tel point qu'un moldu ne connaissant pas ce monde sorcier est considéré comme un paria. Mais 20 ans plus tard, la magie est-elle toujours au rendez-vous devant les films d'Harry Potter? Les hautes instances d'affichés sont les seules à pouvoir en décider.
Boys, take his gun.
Quand on a une plage dans la tête.
What you got between your legs is your business, and what I got is mine.
You may not be able to fight like a samurai.
So fat.
But you can at least die like a samurai.
Et ne pas laisser le cinéma français tranquille.
Empieza el matriarcado.
Dracarys.
Bienvenue dans un nouveau procès de film, ou plutôt de franchise carrément, pour ce dernier épisode de la saison du plus merveilleux des podcasts, qui est Affiché. Je suis Alix Martineau, chargée des podcasts chez Mademoiselle, et aujourd'hui, je suis accompagnée de Paola, stagiaire que j'adore, et Marie, directrice clientèle de Mademoiselle et chroniqueuse régulière de tous les podcasts Mademoiselle. Voilà, vous êtes toutes les deux nouvelles dans Affiché, je suis vraiment ravie de vous recevoir, vous êtes mes deux avocates du jour, et moi, vous savez, je serai la juge totalement impartiale, bien sûr, de ce procès, comme d'habitude, vous savez combien je suis impartiale. Bonjour à toutes les deux, et je vous propose de vous présenter en précisant de quel côté vous serez aujourd'hui. Et vu le thème qu'on a aujourd'hui, j'aimerais bien que vous donniez aussi votre maison Harry Potter. Je vois Marie hausser les yeux au ciel.
D'accord.
Eh bien, commence donc, Marie.
Marie, on sait.
D'accord, et eh bien moi, je suis Marie, du coup, directrice de clientèle chez Mademoiselle. Je suis complètement saoulée par Harry Potter. Je trouve que c'est super surcoté. Donc c'est la vie que je vais défendre aujourd'hui avec entrain. Et pour cela, je suis Serpentard. Aucune idée parce que j'ai pas fait vraiment les tests.
Si, mais je pense que t'es une Serpentard.
Mais oui,
je pense vraiment que t'es Serpentard.
Franchement, t'es une Serpentard à ton ascendant Serre-d'Aigle.
Ouais,
Serre-d'Aigle.
Tu vois ou pas?
Du moment que je suis pas pour souffler.
Parce que oui, dans Harry Potter, il y a des ascendants.
Ouais, exactement. Tu peux faire. Il y a un test d'ailleurs sur Mademoiselle qu'on mettra dans les liens de ce podcast pour trouver ta double maison où tu as un mélange de soit tu es gris. Griffondard ou alors
oh, c'est trop bien.
Pouf d'aigle.
Pourquoi je connais pas ça?
Ah, mais tu vas aller le faire direct.
Ah oui.
Alors Paola, dis-moi qui tu es, ta maison et qui tu viens défendre aujourd'hui.
Je suis la stagiaire d'Alix au podcast et du coup moi je viens défendre la saga phénoménale qu'a été Harry Potter et qu'est toujours Harry Potter. Donc je suis l'avocat de la défense.
Si je... Tout à fait.
C'est ça. Hein ouais. Et la maison c'est tout un truc parce qu'en fait selon l'âge à laquelle tu fais le test, t'es pas la même maison.
C'est vrai.
Voilà.
Ça peut changer.
Donc petite, j'étais
pouf. Ça commence déjà
à
m'agacer. Non mais n'importe quoi. Et la lune aussi, ça change. Voilà. Ça c'est vraiment, tu vois.
Voilà. Non mais parce que c'est vrai, parce que les, par exemple, petite, j'étais pouf souffle quand parce qu'il y avait un test sur Pottermore avant.
Ah bah
Pottermore,
oui.
Qui a été, qui est une plateforme qui a été développée, etc.
Oui, pour, qui a été, c'est développé par l'autrice donc d'Harry Potter, qui en fait recrée le monde d'Harry Potter, parce que Harry Potter ça va beaucoup plus loin que les films, mais on en parlera un petit peu plus. Mais oui, c'est carrément un univers parallèle.
Ah oui, complètement.
Avec beaucoup de merchandising.
J'allais dire de produits dérivés. Principalement.
Je pose
le sel direct.
Tu vas te calmer déjà. Qu'est-ce que t'as contre les produits dérivés Harry Potter? Non, bah
c'est
oui,
pour les pigeons.
Fait, ça va changer. Mais non, c'est faux. Bref, on en parlera parce que j'ai des produits dérivés Harry Potter. Fait maison et acheté. Alors quoi?
Ah.
Et du coup, oui, en fait, je suis passée par Pouf Souffle. J'étais pas trop d'accord. Et après, j'ai refait le test et ils disent que je suis Serre d'Aigle, mais je suis pas non plus d'accord.
Okay.
En fait, je me reconnais pas dans les maisons. Du coup, je sais pas. Je suis, comment on dit, apatride dans le monde Je suis athée. Mon Harry Potter. Ah, Patrick, je n'ai
oh
pas
non,
de Patrick.
Grave,
je n'ai
une
pas de
souffle, toi, moi, je te
mais
connais.
Mais oui, je pense que je suis une bouffe souffle dans le sens c'est où vrai. Les poufs souffles, c'est les. Bah, c'est ceux qu'on voit pas déjà avant les animaux fantastiques. Donc vraiment, ils n'ont aucun intérêt. Les et le seul qu'on voit bien, il meurt. Donc, oui.
Voilà. Les animaux fantastiques, juste pour replacer dans son contexte, ah, oui. C'est une franchise aussi qui a été créée, un dérivé d'Harry Potter, et qui sont en ce moment, enfin, en train d'être réalisés. Il y en a deux qui sont sortis pour l'instant
au
cinéma.
Le troisième arrive, et en fait, c'est avant Harry Potter. Je crois que c'est, on estime 150 ans avant la naissance d'Harry Potter.
Et ça suit l'histoire de Scamander. Newt Scamander.
Voilà, c'est ça. Oh, la
Newt
vache.
Scamander, interprété par Eddie Redmayne. Et voilà, ça a été dérivé complètement du monde d'Harry Potter. Voilà. Comme quoi, c'est vraiment, ça va partout. Quoi. Il y a du théâtre, il y a des bouquins.
Des parcs d'attraction.
Des parcs d'attraction.
Oh, arrête. Mais oui, mais bref, les animaux fantastiques, c'est le seul endroit où on peut voir un pouf souffler à l'œuvre sans qu'il meure à la fin, au bout de 45 minutes, tu vois.
Eh bien, merci beaucoup, Paola. Merci, Marie. Moi, pour votre info, je suis Gryffondor, mais ça n'étonne personne.
Bien sûr, non, pas du tout. Clairement pas étonné. Toi, t'es Gryffondor, ascendant Serdaigle ou Serpentard, je pense.
Je suis ascendant Serdaigle.
Ouais, ascendant Serdaigle, ça m'étonne pas. Le travail, tout ça.
Tout à fait.
Quelque chose à dire, Marie ?
Non, non, pas du tout, je constate.
Bon, en tout cas, merci à toutes les deux. Je vous sens prête à foutre le feu. Donc, ça fait plaisir. Je rappelle juste qu'il s'agit d'un procès en trois parties. D'abord l'instruction, puis le retournage de cerveau. On aura en dernière partie le jugement. Et avant de commencer, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire un rappel sur ce qu'est Harry Potter ? Eh bien oui, parce que peut-être que vous viviez dans une grotte ces 25 dernières années, ou dans un placard à balai, et du coup si je vous balance un truc en fourche langue sur un elfe de maison qui a volé de la bière au beurre à Poudlard, vous risquez de me regarder comme si j'étais un animagus qui se transforme en basilic. Alors Harry Potter, ça naît de l'imagination de J.K. Rowling, une autrice devenue milliardaire depuis la publication du premier tome. Le premier tome, c'était Harry Potter à l'école des sorciers en français, paru en 1997. Elle est aussi devenue transphobe depuis, mais ça fait moins plaisir, on s'attardera sur ça un tout petit peu plus tard, puisqu'aujourd'hui on vient parler des films adaptés des bouquins. Voilà, on est dans Affiché, on parle des films, même si c'est directement lié aux bouquins. J.K. Rowling publie donc 7 bouquins en 10 piges et on compte les adaptations cinématographiques au nombre de 8. Déjà, les calculs sont pas bons, Kevin. Ces adaptations racontent l'histoire d'un jeune garçon qui se fait vicose par son oncle et sa tante jusqu'à ce que Hagrid, un demi-géant pas hyper doué en orthographe, lui annonce qu'il est un sorcier, Harry.
Boum.
Ouf. Et il nous emmène avec lui dans un monde parallèle incroyable, fait de magie, de créatures extraordinaires, d'une école un peu chelou, de gens très gentils mais aussi des gens très méchants et de quelques zones grisâtres. C'est vraiment un monde à part, Harry Potter, c'est carrément un univers, pour le coup, vraiment parallèle, puisque les sorciers vivent dans notre monde actuel, en fait, c'est placé dans les années 90. Les sorciers vivent dans notre monde, mais ils vivent cachés. Pour ne pas... Pourquoi ?
Bah pour pas perturber le...
les moldus.
Oui, les moldus.
C'est ça. Voilà. Voilà. Et c'est une des règles fondamentales de la magie, d'ailleurs.
Bien sûr.
Il faut pas le dire. Voilà.
Le dis pas,
c'est ça,
à ta copine.
C'est comme le Fight Club.
Exactement.
Bon, bien sûr, Harry Potter, il découvre que c'est pas un garçon comme les autres. Il découvre rapidement qu'il est l'arch-némésis du pire mec de tout l'univers, le mage le plus puissant, celui dont on prononcera le nom tout le long du podcast parce qu'on n'est pas des flippettes, Voldemort. Il arrive plein d'aventures à Harry, Ron et Hermione, qui sont les trois amis qui ont révélé trois acteurs qui ont grandi avec leurs personnages pendant une décennie. Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint. Il y a eu plein d'autres acteurs aussi dans Harry Potter, mais c'est les trois qui ont été vraiment révélés. Harry Potter en film, c'est 7 milliards de dollars au box-office. 4 réalisateurs différents avec Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell et David Yates. Et une génération entière, la mienne, marquée par ces films. Pourtant, une femme résiste encore et toujours à cette hype. Marie Vrignot trouve que ces films sont largement surcotés. Mais heureusement, Paola viendra défendre un monde merveilleux et magique auquel elle tient encore malgré tout. Est-ce que c'est à peu près ça, ce qui va se passer
c'est
aujourd'hui ?
C'est complètement, complètement ça.
Allez.
Sauf que je vais pas te défendre, je vais gagner le procès.
Tu sais qu'il faut pas trop chauffer Marie Vrignot, hein. C'est quand même la compétitrice de cette boîte.
Et hein. Je peux être de très 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 mauvaise foi, hein. Faut le savoir. Hein.
Eh bien, merci beaucoup Marie. Et puis tout de suite, on va passer à l'instruction. C'est l'heure de l'instruction. Je rappelle, Maître Marie et Maître Paola, que pendant l'instruction, vous établirez votre rapport au film, enfin à la série de films qu'est Harry Potter, et vous engagerez chacune votre tour dans une diatribe ou une apologie de la série de films, selon votre rôle. Je vous demanderai de laisser l'autre parler. Bien sûr, vous pourrez demander une objection en mon honneur. Voilà, objection, votre honneur. La mauvaise foi dans l'instruction est totalement acceptée, si ce n'est encouragée. On commence toujours par l'accusation. Donc, Maître Marie, c'est à vous.
Écoutez, votre honneur, je suis ravie d'être ici pour défendre mon point de vue.
Objection.
Sur Harry Potter.
Wow, fallait que je fasse un bon.
Elle me choque. Alors déjà, je pense que c'est important de situer un petit peu ma découverte du film Harry Potter
bien
et
sûr.
Tout, parce que c'est aussi assez, je pense, significatif de mon expérience. En gros, moi, j'ai vraiment grandi avec Harry Potter. C'est-à-dire que le premier film, je l'ai vu au cinéma. Et j'avais quasiment les mêmes âges que les personnages, en fait.
Bah oui.
Donc ça m'a vachement marqué. J'ai adoré, franchement, je me rappelle, on avait été le voir avec le collège. C'était vraiment un truc de fou. Globalement, moi, j'aime bien les films d'aventure, de féerie, de science-fiction. Donc, en fait, tout ce qui est un peu monde différent que la réalité, je kiffe. Et il faut savoir aussi, et je pense que c'est super important par rapport à mes goûts, c'est que j'ai découvert donc quasiment en même temps Harry Potter, puis Le Seigneur des Anneaux, qui sont sortis au mois de décembre 2001, vraiment à 10 jours d'affilée. Quoi.
En film, parce que Le Seigneur des Anneaux, ça date.
Ouais. Mais mon père, par contre, m'avait lu déjà les livres du Seigneur des Anneaux.
Ça, il était déter, ton père.
Hein, ouais, je m'en rappelle de ouf. Et, par contre, je n'ai jamais lu les livres Harry Potter, et ça, c'est important, je le précise. Et je ne les ai pas lus avant d'avoir les films, ni maintenant. Donc, je me base uniquement sur les films. Okay.
Fut un temps, je jugeais les gens qui faisaient ça. Maintenant, j'ai grandi.
Mais je sais pas, tout le monde...
Attends de savoir la vérité.
Je pense que, tu vois, c'est typiquement représentatif, encore une fois, de ce que je ressens pour Harry Potter, c'est que c'est tellement tout le monde avait lu, tellement tout le monde kiffait, que moi, j'aime pas faire comme tout le monde, tu vois, et ça m'a saoulée.
T'es pas mainstream, Marie.
Je suis pas mainstream, yeah. En gros, bah, moi, au début, j'ai vraiment accroché. Honnêtement, j'ai été séduite par le côté super féerique, des personnages auxquels je peux vachement m'identifier, puisque c'est une petite bande de potes qui ont mon âge, qui sont mimes, ils sont rigolos avec leurs petites baguettes, très naïfs, mais en même temps, bah, moi aussi à cet âge-là. Et en fait, je pense que rapidement, vraiment au bout du troisième, quatrième film, il y a eu une espèce de. Il y a une rupture, en fait, entre.
C'est au quatrième, parce que le quatrième, c'est nul.
Ah, peut-être possible.
Non, mais c'est mon analyse personnelle.
En fait,
mais...
c'est l'évolution des personnages par rapport à ma vie à moi. Alors déjà, je suis pas magicienne, tu vois. Donc,
ah ouais.
J'ai pas pu m'identifier. Et ben en fait, il y a eu vraiment, je sais pas, un espèce de truc de... Pff, en fait, moi, je suis plus une gamine.
Flemme.
Ouais, flemme.
Ah ouais, toi,
il y a un côté... Ça y est, je commençais à rentrer dans l'adolescence. Je commençais à plus du tout avoir les mêmes centres d'intérêt que Harry Potter, tu vois. Typiquement, lancer des sorts random. Par contre, aller à Ibiza draguer des gens, oui. Et du coup, bah, voilà, il y a eu une grosse rupture. J'ai quand même continué à regarder tous les films quand ils sortaient. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai trouvé ça trop de films, trop d'univers, trop de personnages, trop de décors, trop de... Et du coup,
j'ai fait une overdose
complètement. Et faut préciser aussi que mes deux cousines, avec qui j'étais tout le temps à l'époque, étaient fans vraiment inconditionnels de Harry Potter et / de Daniel Radcliffe. Donc elles avaient des posters dans leur chambre, elles en parlaient toute la journée. Enfin vraiment, elles étaient fangirls. Et moi, j'étais en mode déjà, je le trouve chiant, random. Dans
Daniel
et Harry Potter. Voilà. Moi, je
pas
mets
d'attaque
les pieds
dans le plat. Ad hominem. On reste dans le respect, déjà.
Bien sûr, je ne juge pas cette personne, juste je ne la trouve pas très intéressante. Après, il y avait un espèce de rendez-vous, voilà, tous les gens c'était la suite, ouais. Etc. Et en fait, j'ai l'impression que même si l'intrigue évolue un petit peu, mais en vrai, ça restait tout le temps la même chose. Ouais. Et moi, ça m'a un peu saoulée. Ok, c'est le même schéma à chaque fois. Il n'y avait jamais de vraiment grosse chute. En plus, moi, j'aime bien les plot twists ou ce genre de choses. Bah, il n'y a pas du tout ça dans Harry Potter. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble pas.
Attends, mais
un petit peu quand même.
Un peu.
Tu veux qu'on compte le nombre d'événements incroyables qu'il y a dans Harry Potter?
Ah, qu'est-ce que
non,
tu
mais
veux définir comme
twist,
incroyable?
Le plot twist que Rogue, il est sympa.
Mais attends, mais ça, ça le... Mais attends, voilà. Typiquement, moi, je le savais que Rogue était sympa, tu vois.
Ah ouais.
Je sais pas, faut être naïf pour se dire que il le présente comme le méchant. Et bah oui, en fait, il est gentil, tu vois.
Oui, ça c'est.
Bah ouais, mais moi, j'ai lu les bouquins. Moi, je sais pas, moi j'étais vraiment à fond dans les bouquins. Moi, c'était le rendez-vous, c'était plus les bouquins, tu vois. Où, en fait, ma mère achetait, parce que tout le monde était accro dans ma famille.
Ah.
De ma mère, mon père, mes frères, enfin mon frère, du coup, parce que j'en avais qu'un à l'époque. Et on se passait le bouquin et on tirait au sort celui qui allait le lire en premier, tellement on était chaud, quoi. Et il fallait le lire en moins d'une semaine pour pas faire chier les autres, tu vois,
mais
pour y aller le plus rapidement
mais
possible.
Votre honneur, du coup, vous n'êtes pas vraiment très objective, là.
Si, je suis totalement
d'accord,
objective.
D'accord, ok. Je préfère demander, hein, quand même. Et du coup, effectivement, j'ai eu un espèce de gros ras-le-bol. Et en plus de ça, ce qui m'a, je pense, aussi un peu saoulée, c'est le côté très marketing. Trop marketing, en fait. Bon, j'aime bien... voilà, j'ai une meuf qui aime bien les marques, j'aime bien les trucs cool et tout, mais... Là, c'était trop business, en fait. C'était devenu vraiment un business Harry Potter. Quand il a commencé à avoir vraiment les costumes, les crayons, les parcs d'attractions, les jeux vidéo, enfin n'importe quoi, même du papier toilette Harry Potter, enfin, too much. Et en même temps, j'ai du coup découvert Le Seigneur des Anneaux, que j'ai trouvé vachement plus cool, vachement plus mature, en fait. J'ai trouvé que Harry Potter, ça avait un côté trop enfantin, et ça m'a saoulée.
Voilà. Ok.
je sais pas, c'est un écosystème qui est trop chronophage, je trouve.
On part quand même d'une œuvre qui, à la base, est une œuvre de littérature jeunesse.
Oui.
Ce qui n'est pas le cas pour Le Seigneur des Anneaux, qui a été écrit par Tolkien. Donc...
Non, mais ils auraient pu faire grandir le truc en même temps, tu vois.
Oui, mais je trouve personnellement que c'est ce qui a été fait, mais on y reviendra plus tard. Mais Harry Potter, c'est quand même une œuvre de littérature jeunesse, et c'est ce qui explique le succès aussi des livres. Là, je parle plutôt parce que les films, ça se calque sur les livres. C'est que ça a été publié en tant que littérature jeunesse, mais dans cette littérature jeunesse, ça abordait des thèmes qui étaient
L'amitié ?
Oui. Oh, ce pic. Oui, l'amitié, madame. Et alors ?
C'est super. C'est super, les amis.
Non, mais par exemple, le thème de l'absence, du deuil, de plein de choses comme ça qui sont abordées dans Harry Potter, plus dans les livres que dans les films, je trouve. Le thème aussi de la tolérance, mais je crois que ça, l'autrice, elle a oublié après.
Bah oui, c'est ce qu'on
allait dire, ouais.
C'est ce qui est un peu dommage dans cette œuvre, c'est que du coup, les propos transphobes qu'a eu J.K. Rowling sur Twitter, ça a beaucoup posé de questions au sein de la communauté de fans, parce que c'est, en plus, comme tu le disais, non seulement un truc très marketing Harry Potter, c'est aussi un truc de communauté.
Ouais, c'est clair.
C'est vraiment, t'as des causes de Harry Potter.
Ouais. T'as carrément un nom de communauté, etc. Ouais. Et oui, en fait, pour recontextualiser très rapidement là-dessus, donc l'autrice J.K. Rowling a tenu en 2018, je crois, sur Twitter des propos transphobes, donc c'est arrivé plusieurs fois, et moi celui dont je me souviens, en gros il y avait donc un tweet qui avait été posté de les personnes qui ont leurs règles pour inclure les personnes transgenres par exemple dans le fait, parce qu'il y a des personnes transgenres qui ont leurs règles de fait, mais qui sont pas des femmes, donc on dit les personnes qui ont leurs règles quand on veut être inclusif, et en fait elle a repris le tweet, elle l'a retweeté et elle a dit des personnes, il me semble qu'avant il y avait un mot pour ça, comment ça s'écrit déjà, W ou woman, enfin bref,
on est en plus c'était très ironique,
très provocant, très ironique, très irrespectueux, bref, évidemment c'est condamné, et ça a provoqué un énorme tollé du coup chez les Potterheads, parce que beaucoup des Potterheads ont retrouvé dans l'œuvre de Harry Potter, et on y reviendra, un lieu de refuge. Il y a beaucoup d'enfants qui étaient harcelés à l'école, qui se sentaient pas bien dans leur tête, qui avaient aussi des questionnements sur leur entourage, leur vie, etc., qui se sont retrouvés dans cette œuvre-là. On parlait tout à l'heure
parce que c'est une histoire d'underdog, Harry Potter. Enfin, tu vois, pour le coup, il dort dans un placard.
Oui, c'est ça.
Donc, enfin, bon, comme tout, enfin, tu vois, genre la métaphore est quand même ouf.
Ouais, c'est clair.
Ouais,
enfin,
oui,
être
c'est
coincé dans un placard. Ouais. C'est le cas de plein de gens, en fait, de la communauté LGBTQIA+, qui s'est retrouvée vachement là-dedans. Donc, ça a vraiment fait un clash.
Ça a été métaphorique pour eux et pour d'autres enfants qui ne font pas forcément partie de cette communauté, mais encore plus pour cette communauté, qui ont créé une communauté, du coup, qui se sont échangés, etc. Et du coup, découvrir que l'autrice de ces œuvres-là est transphobe, ça annule pas l'œuvre, mais ça remet en question du coup le fondement en fait des idéaux qui sont divulgués dans cette œuvre-là. Et donc ça a été très douloureux pour les personnes pour qui Harry Potter représente énormément de choses, c'est-à-dire pour certains toute leur vie, pour certains leur groupe d'amis, leurs souvenirs, etc. Mais je tiens à dire que l'œuvre, bon, l'auteur, on peut pas contrôler ce qu'elle fait, mais qu'il y a eu aussi derrière ces propos-là un rebondissement de la part des acteurs. Et là, comme on parle des films, c'est important de le dire, de la part de plusieurs acteurs qui ont condamné fermement ou rassuré les personnes visées par ce tweet-là, du fait que chacun fait ce qu'il veut, chacun est comme il est, que c'est important d'avoir de la tolérance, etc. Et que tout le monde est valide, quoi. C'est l'idée vraiment
surtout parmi les acteurs, il y a quand même Emma Watson qui est activiste militante pour les droits des femmes, enfin
qui fait partie de l'asso E4She, donc qui a eu un discours à l'ONU, qui a fait des études là-dedans. Je crois qu'elle a étudié la sociologie du genre, etc. Elle a un gros parcours et tout. Elle est très militante. Des acteurs moins militants se sont aussi prononcés là-dessus. Donc on peut malheureusement pas contrôler les actes et paroles de l'autrice, mais parce que je disais auteur depuis tout à l'heure, mais on parle bien d'une autrice. Mais on peut souligner quand même le fait que les films, que les acteurs qui jouaient dans les films ou l'équipe du film peut se détacher de ça, et qu'on peut parler des films en parallèle de ça, voilà, en parallèle de cette histoire-là,
okay,
dont il faut parler quand même.
Voilà. C'est vrai.
C'est important.
C'est important. Marie, est-ce que vous aviez quelque chose à dire, Maître Marie, sur les personnages, par exemple, qui peuvent être des gros trous du cul?
Exactement, j'allais rebondir sur
l'autre honneur.
Sur le problème principal de ce film, finalement, c'est que Harry Potter est un personnage random, chiant. Miskin, il vit dans l'ombre de ses parents, il a rien fait de sa life, il est pas self-made. On lui dit. Enfin, tu vois, genre, je déteste ce genre de truc de. Il est l'élu, tu vois, genre, déconditionnant.
Ouais, c'est hyper fataliste.
Oh là là, purée, putain, bouge-toi. Et...
Surtout que lui tout seul, il fait rien. Hein.
Exactement. Voilà, il y a toujours un de ses potes qui vient l'aider, qui vient le sauver. Bon, quand même, dans beaucoup de schémas, c'est le cas. Par exemple, le Seigneur des Anneaux, Frodo, c'est un gogol aussi.
Ouais,
mais,
c'est ça.
Enfin, c'est pas grave. il fait d'autres choses. Mais Harry Potter, je trouve qu'il est.
Bah, en fait, il est chiant. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il fait sa bicose tout le temps. Exactement. Et que, tu sais, il fait. Non. Les gars, je dois y aller tout seul car c'est moi l'élu.
Exactement.
Ça m'énerve. Exactement. Tu sais très bien que tes potes ils vont venir. Exactement. Ça m'énerve. Arrête de faire semblant.
Exactement.
Oh là là, qu'est-ce qui m'agace.
Capitalise sur l'équipe, sur le team building, sur le collectif. Et non, lui il fait son truc tout seul parce que je sais pas, je pense que.
Il veut préserver ses amis, ok.
Non, mon frère. Non, il veut, dire, il veut la vedette. Il veut la vedette
ouais,
tout le temps.
Non, mais tu vois, c'est de la fausse humilité, je trouve. Moi, je trouve que c'est un peu le.
Écoutez,
gars,
la fausse humilité, dois... tant que ça sauve des vies.
Mais
est-ce
non,
que
mais
finalement.
Mais non, mais réfléchis parce que regarde, quand, si jamais il partait en équipe, il aurait plus de chances de battre le gars qui veut ce gars-là tuer tout le monde.
Exactement.
Alors que s'il part tout seul, eh ben, il a moins de chances de le tuer et du coup, ça tuera tout le reste du monde au lieu de tuer genre 3 potes.
De toute façon, ses potes dans le chute parce que ses potes sont un peu des suiveurs.
Joker mauvaise foi, là, c'est possible.
Non, mais ses potes sont grave des suiveurs, donc ça veut dire qu'effectivement, ils le sauvent à chaque fois. En fait, on gagnerait tous du temps si direct ils y allaient en team, tu vois.
Ouais, de ouf.
Faites pas chier.
Ça serait la moitié des films en moins, et
exactement.
Déjà, on pourrait faire 7 films au lieu de 8 films. Parce
mais
que
ce serait dramatique d'avoir la moitié des films en moins, en fait. C'est quoi votre problème, là?
Tu trouves sincèrement que les derniers
T'es
films.
T'es sûr d'avoir
sont...
lu les livres, toi?
Tu y trouves sincèrement, Paola, que les derniers films sont bons?
Oui. Ah, oui. Ah, sincèrement, moi je commence à énormément kiffer. Mais là je sais les Potterheads, là je vous entends, là vous allez me descendre. Mais mon film préféré, j'y reviendrai, est le 5. Vrai, le 5, il est décrié par énormément de gens. Il y a énormément de gens qui le trouvent chiant, ennuyeux. Ennuyant ou ennuyeux?
Je sais jamais.
Je sais jamais. Ennuyeux
boring.
Et ennuyant.
It's
voilà,
boring.
C'est mieux en anglais. Et pourtant, pour moi, c'est une œuvre d'art. C'est un truc de ouf, ce film.
Non, il est très bien. Il est un peu plus contemplatif.
Exactement. Putain,
moi, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de plans hyper longs sur le ministère de la magie. Enfin, je trouve ça magnifique, tu vois. Et non, mais moi, mon préféré, ça reste quand même le 3 de Alfonso Cuarón, qui est aussi un de mes réalisateurs préférés. Donc, ça match. Mais le 3 est incroyable.
Ouais,
voilà.
Le 3, pendant longtemps, je ne l'ai pas aimé. Et j'ai appris à l'aimer après.
Je vais conclure juste en précisant que quand même, les principes... Enfin, tous les personnages ont quand même eu une carrière assez pathétique parce qu'ils ont fait que ça. Franchement.
Attends, tu veux qu'on regarde la filmographie de Emma Watson après Harry Potter?
Elle n'a pas fait non plus. Enfin,
non, elle
n'a
pas fait
le truc, c'est que
plus.
Tout le monde va se souvenir d'Emma Watson que par Harry Potter. Et c'est quand même super triste, je trouve. Et donc, du coup, ça les a vachement enfermés. Je pense que, tu vois, le fait que ce soit vraiment des longues sagas de, voilà, 8 films, en fait, c'est trop. En fait, arrêtez. Parce que là, là, vous brisez les carrières de ces jeunes personnes.
En vrai, ils n'ont pas des carrières brisées. J'irai pas jusque-là, tu vois.
Eh ben, les acteurs d'Harry Potter, leur carrière était tellement internationale à la base qu'elle a été reconnue partout. Mais après, ils ont fait une carrière, à part Emma Watson qui a fait une carrière internationale sur encore 5-6 ans, ils ont fait une carrière nationale. Par exemple, Rupert Grint est très reconnu au théâtre. Il a reçu l'équivalent de Molière, etc.
Ouais.
Il fait beaucoup
de théâtre.
Alors attends, parce que moi j'oublie toujours son nom, mais elle est.
Elle a pris
elle
beaucoup
a 12
de notes.
Hélène Macrory, qui est malheureusement décédée il y a très peu de temps, qui jouait la mère de Malfoy, Narcissa Malfoy, faisait énormément de théâtre. C'était une actrice
aussi,
phénoménale.
Il faut dire que dans Harry Potter, tous les acteurs anglais qui sont bons y ont joué, tu vois, genre.
Ah oui,
oui, c'est vrai.
Vraiment tous les acteurs anglais
qui
sont bons.
Là, la mauvaise foi est pas assez puissante. Là. J'avoue, ils ont mis des acteurs déjà connus. Mais c'est vrai que les acteurs, par contre, qui étaient dans le film petits, qui ont grandi avec le film, ont été moins reconnus, mais aussi parce qu'ils se sont écartés du cinéma, etc.
Ouais. Pff, tu
non,
t'écartes
mais
pas
si...
du cinéma, c'est le cinéma qui veut pas de
et
toi.
Et même Daniel Radcliffe.
Non. Excuse-moi, mais excuse-moi.
On part en punchline.
Daniel Radcliffe, il a quand même fait des super films, mais des films beaucoup plus indépendants.
Voilà.
Et des films. En fait, il s'est vraiment, lui, il a cherché à un truc complètement différent, à se renouveler vraiment, pas se remettre, parce que Emma Watson, elle a un peu fait des gros blockbusters et tout, tu vois. Enfin, même elle a fait Les Filles du Docteur March. Enfin, tu vois, des gros films. Enfin, même si c'est pas.
Elle a fait Noé. Elle a fait Le Monde de Charlie, qui est un film
Le
incroyable.
Monde de Charlie,
moi,
qui est
j'ai
très
adoré.
Bien. Mais Daniel Radcliffe, il a fait notamment ce film avec
Swiss Army Man.
Swiss Army Man.
C'est incroyable.
Passion.
C'est incroyable ce film.
Ouais, ouais. Un film, quoi.
C'est un cadavre qui pète. Moi, je vous dis ça comme ça.
Ah, c'est vrai, putain, j'en ai entendu
trop
parler.
Trop bien.
Oh non.
Mais après, pour rester un petit peu sur le focus Harry Potter, je sais que bon, c'est tout un univers et tout. Mais pour appuyer ton point, Marie, aussi, je trouve qu'il y a un gros déséquilibre entre les films, entre les différents films. Et enfin, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Tu vois, moi, le 4, je trouve que c'est de la merde à chier.
Tu peux me rappeler le nom du 4 ?
La coupe de feu.
Ah ouais, nul à chier.
Voilà. Bon, en tout cas, merci Marie d'avoir bien défoncé Harry Potter.
Je vais me faire détester maintenant. Franchement, les Potterheads, bah, c'est la même chose que les drapeaux bretons en festival. Ils sont partout. Ils sont très envahissants et ils ont besoin de dire qu'ils sont là, tu vois. Stop.
C'est pour ça
gars.
Qu'il y a beaucoup de Potterheads en Bretagne finalement.
Oui, exactement.
Ouais.
Communauté très forte.
Mais non, il y a des tests qui ont été faits sur l'aspect communautaire d'Harry Potter. Et je trouve ça très fou.
Mais c'est une des plus grosses communautés, une des premières aussi communautés d'Internet, je pense.
C'est surtout ça, en fait.
Parce que Internet, ça s'est démocratisé dans les années 90.
C'est vrai.
Si je ne m'abuse. Donc voilà, Harry Potter, c'est un truc qui a fédéré tellement de gens au moment où Internet et le chat commençaient à marcher de ouf. Donc voilà, c'est normal.
C'est ça.
Maître Paola, c'est à vous.
Moi, j'ai découvert Harry Potter par le 2. Et je tiens à dire quelque chose. Je n'ai pas lu les livres Harry Potter avant l'âge de 19 ans.
C'est vrai, tu les as lus ?
Pas tous. J'ai pas lu le 4, j'ai pas lu le 5. J'ai pas lu le 4 et j'ai pas lu le 5. Et j'ai pas fini le 3.
Voilà. Et après, en même temps, toujours dur de regarder des films puis de lire un
livre.
Ouais,
c'est clair.
Non, moi, je
préfère lire les livres d'abord et ensuite voir le film.
Et ben moi, je préfère l'inverse.
Ah bon ?
C'est ça qui est ouf, c'est que je vais l'expliquer, mais c'est que les films Harry Potter, il y a tellement de choses qui ont été omises dans les films que quand j'ai lu les livres, j'ai eu l'impression de découvrir une autre œuvre. Et ça a été un plaisir, mais incroyable, parce que j'étais déjà fan d'Harry Potter. Et j'ai lu les livres, du coup, à 18-19 ans, et j'ai fait, mais en fait, je connaissais la moitié de l'œuvre. Et du coup, j'ai découvert des personnages, j'ai compris des choses aussi que j'avais pas forcément compris. J'étais en mode... Ah ouais, ok, d'accord. Et j'ai fait l'expérience de lire le dernier tome qui regroupe les films 7 et 8. Du coup, j'aurais jamais dû faire ça, c'était la plus grosse déception de ma vie. Surtout que la saga se concluait là-dessus.
Film de merde.
Mais non, pas film de merde.
tu joues à mon avis.
Juste, il faut se questionner sur peut-être la consistance des films par rapport aux livres.
Okay.
En effet. Il y a un questionnement, mais après, c'est pas forcément un mal. Hein. Moi, je serais pas à prendre des versions de 4 heures, mais bon. Bref, du coup, oui, j'ai découvert Harry Potter quand j'avais 10 ans par le 2 et ça m'a fait très peur. On était chez des amis de mes parents.
Ça fait extrêmement peur le 2. Moi, je me souviens,
j'ai été traumatisée.
Ouais, le basilic, là, ils sont tarés. Genre, ça faisait super peur et je me souviens que ce qui me faisait le plus peur et ça m'est resté en tête parce que c'est un traumatisme que j'ai encore aujourd'hui, c'est les bruits dans les murs.
Ah ouais.
Ah oui,
bien sûr.
Par contre, j'ai trouvé que le film, enfin, les répliques du film, la manière dont tu as écrit le scénario, est absolument trop comique. C'est un des films qui me fait le plus rire des Harry Potter.
Ah ouais.
Parce que les derniers sont très sombres, donc franchement, il n'y a pas grand chose de drôle. Et le premier est naïf, je trouve, ce qui n'est pas forcément un mal.
Complètement d'accord.
Ce qui n'est pas forcément un mal pour une entrée en la matière. Et en fait, le 2, il commence à avoir des phrases. Moi, j'ai regardé en français hein, les Harry Potter. J'ai commencé à les regarder en anglais bien plus tard. Mais dont la phrase de Ron, pourquoi c'est toujours des araignées? Pourquoi ça ne peut pas être des papillons? Ça m'a toujours fait beaucoup rire.
Ok, c'est marrant.
Alors, le début de ma baguette. Il a cassé ma baguette.
Oui.
Voilà. Avec sa tête. Rupert Grint, il a quand
même une teuté.
Ah ouais. Non.
Et ça a été, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert Harry Potter. Ça a été formidable. Et moi, ça a été un peu les films, parce que les livres, je les ai lus plus tard. Vraiment, un socle de moi à moi, quoi. C'était mon petit univers. C'était là où je me sentais.
C'est des vrais films
tout.
Doudou, un peu, tu vois.
C'est
tu
ça.
Tu les vois beaucoup.
Bah, concrètement, encore aujourd'hui, quand il pleut, les gens ont envie de regarder Harry Potter en chocolat chaud.
J'allais te demander, parce que moi, tu vois, typiquement, si je regarde Harry Potter aujourd'hui, bah, je vais pas kiffer, tu vois. J'ai trop décalage avec les autres films que je regarde. Enfin, justement, l'univers trop naïf. Donc moi ça ne fait pas du tout justement cet effet doudou. C'est pour ça aussi que je suis un peu blasée.
Et ben le scénario, alors, ça va être mon prochain argument. Déjà, au niveau des livres juste, il y a une cohérence dans l'univers qui est déjà mise en place par J.K. Rowling, une cohérence qui est certaine, elle va donc... il y a toute une recherche, je trouve, le bail des mots en latin pour mettre le vocabulaire sorcier en place, le fait qu'elle se soit inspirée de lieux réels aussi pour construire des images et que les films aient respecté ça et repris les lieux réels, je pense notamment au train, à la gare de King Cross, à une librairie qui est au Portugal aussi, qui est à Lisbonne.
Porto.
Porto, Pardon, c'est à Porto. À chaque fois, je confonds. La librairie de Porto qui a énormément inspiré.
C'est là qu'elle écrivait en fait.
Oui, c'est là qu'elle écrivait en partie, et elle écrivait aussi dans un petit café en Écosse. Elle s'est beaucoup inspirée des rues, des murs. Par exemple, le chemin de traverse, ça a été inspiré par les rues écossaises avec les maisons très penchées, les très.
De toute façon, c'est très british.
C'est ouais, ça, c'est extrêmement british. Et je trouve que les films ont profondément respecté ça et ont réussi à le remettre en place visuellement. Parce qu'en lisant les livres, j'ai. Bon, moi, j'ai pas fait expérience inverse, mais en lisant les livres après les films, j'ai visualisé vraiment ce qu'elle voulait dire, quoi. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait un respect. Je tourne
oui, bon, en même temps, heureusement, quoi.
Enfin, voilà. Oui, mais c'est pas le cas dans tous les films. Hein.
Okay.
Le Seigneur des Anneaux, pardon. ensuite, du coup, il y a la diversité aussi des réalisateurs, pour moi, qui est un argument. Bon, le 4 est pas forcément un
oui, c'est
exemple,
ça, c'est à double tranchant. Hein.
C'est ça, le 4, c'était un gros double tranchant et le double du tranchant de pas bien. Mais pour le reste, en fait, ça, le fait qu'il y ait plusieurs réalisateurs, ça donne vraiment une évolution qui suit le personnage et les thématiques abordées dans Harry Potter, dans le sens où, même au niveau de l'image, le 1 est un film très coloré, avec énormément de couleurs, avec vraiment une presque une pluralité dans l'image, en fait, au niveau des couleurs, des objets. Il y a beaucoup de choses dans l'image à voir qui est un peu, voilà, qui est magique, féerique, etc., quand on voit les personnages. Et au fur et à mesure des films, le paysage est beaucoup plus effacé, en fait, autour d'eux. Il y a une lumière qui est plus bleutée, par exemple, dans les derniers, parce qu'on est vraiment, du coup, avec le personnage qu'on suit depuis 10 ans.
Oui, les 3 derniers, c'est David Yates.
C'est ça. On est vraiment sur le personnage, sur les expressions, sur la figure du personnage, etc., sur la violence qu'il peut y avoir dans les mots, dans les gestes, etc. Et le paysage derrière est beaucoup plus. C'est comme des tableaux, en fait, comme si les personnages étaient posés dans des tableaux et évoluaient dans des tableaux, mais des tableaux immobiles, et ce qui rend le. Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment une évolution, en tout cas, dans la réalisation, qui est très profitable au film et du coup à ce qui se passe à la fin, en fait, des Harry Potter. Parce que, à la toute fin, le dernier plan des Harry Potter, c'est du coup une scène à la gare de King's Cross. Donc, ça. C'était déjà dans les livres, mais quand même, chapeau.
Petit clin d'œil.
Et en fait, on retrouve, je trouve, la colorimétrie, je crois que c'est le mot, du premier film, en fait. Avec le train très rouge, avec beaucoup de lumière, avec beaucoup de mouvements, etc. autour. Et je sais pas, du coup, ça fait un effet boucle. Et moi, j'ai adoré, en fait, l'évolution et le côté sombre des derniers films aussi. Parce que je suis quelqu'un de très sombre, voyez-vous. Mais... pas du tout.
Parce que je suis très bresson, ok.
Je suis bresson, moi, ouais. Et puis, enfin, il faut savoir qu'à l'époque, le premier Harry Potter, même en le revoyant aujourd'hui, je le trouve pas tant obsolète que ça au niveau des effets spéciaux. Et ça, c'est un truc de ouf. Il y avait quand même pas du tout les mêmes outils qu'aujourd'hui au niveau de la réalisation. Ils ont dû inventer des trucs, genre Poudlard. Le Poudlard qu'on voit, c'est une maquette. Harry Potter, ça, les équipes des films, pour les premiers effets spéciaux, ont fait beaucoup à la main, etc. Et franchement, c'est... j'ai trouvé ça incroyable en me penchant sur les premiers films. Et puis après, au niveau des effets spéciaux, on reviendra plus tard quand je décrirai la scène que j'ai choisie, qui est incroyable d'effets spéciaux. Incroyable.
Oh là là, quel suspense s'allumait.
Incroyable.
Merci beaucoup pour cette instruction qui fut longue, mais on en a bien profité. C'était très sympa. J'ai hâte de vous entendre parler dans la deuxième partie de ce procès, qui est le retournage de cerveau. Tout de suite. C'est donc l'heure du retournage de cerveau. Vous allez prendre chacune une film. Soit un film en entier, puisque c'est une série de films, soit une scène dans un des films, pour être un peu votre preuve à l'appui de ce que vous avez avancé dans l'instruction.
Formidable.
Incroyable.
Pardon.
Alors Marie... Je vous laisse commencer, Maître Marie.
Avec grand plaisir. Alors moi, je vais vous parler d'une scène du premier film, qui est le premier match de Quidditch d'Harry Potter.
Non mais c'est abusé.
Ne commence pas.
Abusé.
Alors,
Paola. Objection directe. Je suis désolée. C'est...
J'ai rien commencé à dire.
Non mais tu peux pas. C'est une œuvre filmographique sur un film qui a existé il y a 20 ans.
C'est une blague.
Tu viens de dire, que c'était génial et que ça n'avait pas vieilli, hein.
C'est même pas tant en termes de réel que ça me fait un peu vibrer, c'est en termes de sens, en fait. C'est pas logique. Looks like he's gonna be sick. He's got the snitch. Harry Potter receives 150 points for catching the snitch. Gryffindor wins. Alors, donc, je vous rappelle, premier film, Harry Potter est un baby. Le mec, il a 8 ans. Enfin, j'exagère, mais voilà.
Non, il a 11 ans.
Le mec, voilà, il a jamais fait de Quidditch de sa vie. Il l'embauche carrément comme un des postes les plus importants, qui est attraper le vif d'or. Alors que c'est interdit normalement pour les premières années d'intégrer l'équipe de Quidditch.
Ouais.
Déjà, tu te dis, ok, le mec est chouchou, hein, ça n'arrive à personne.
Ou alors, il fait toujours les trucs interdits, c'est hyper énervant.
Puis en plus, le capitaine, il est pas conscient de mettre un premier élève dans sa team. Je veux dire, déjà, ça n'a pas de sens, tu vois, de base.
Il était le fils de James.
Voilà, donc c'est-à-dire
Potter.
Que le mec vit.
C'est dans les gènes.
Je déteste ça. Le mec vit à travers ses darons. C'est n'importe quoi.
Bah, c'est, écoute, c'est prouvé que les compétences sportives peuvent être données aux enfants.
Maître c'est Paola, faux. C'est complètement faux. Arrêtez d'être de mauvaise foi. Laissez Maître Marie parler.
Merci beaucoup. Donc, du coup, tiens, comme par hasard, il est intégré à l'équipe alors qu'il n'a pas le droit. Bon, déjà, je trouve qu'au début du match, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le mec est sur son balai, comme ça, au calme. Il plane de ouf. Il n'est même pas au taquet en train de chercher le Quidditch, le vif d'or. Il est comme ça, tranquille et tout. Et là, c'est carrément le vif d'or qui vient à lui en lui disant coucou, je suis là, frère. Si tu te bouges un
ouais,
peu.
C'est vrai que donc, c'est un assisté quand même.
C'est un assisté. Bon, c'est globalement ce que représente Harry Potter, un assisté. donc. Il commence à courir.
On peut pas contredire ça, en fait.
Il commence à voler après le vif d'or, etc. Là, son balai se fait ensorceler. Qui le sauve ? Évidemment, ses amis, puisque lui ne sait rien faire tout seul. Il s'en sort pas trop mal, on va dire qu'il se démène de son balai, là, qui fait n'importe quoi. Et finalement, il réussit par attraper le vif d'or, sauf qu'il attrape le vif d'or alors qu'il est par terre, mesdames. Je vous rappelle que la règle, c'est d'attraper le vif d'or en volant, en fait.
Il a triché.
Je soupçonne Harry Potter d'être un tricheur au Quidditch. Et que cette scène n'ait jamais fait scandale, alors qu'elle devrait.
Il a pas attrapé le vif d'or quand il était par terre, Marie.
Il a attrapé le vif d'or quand il était en volant. Il est tombé par terre. Après, il a montré le vif d'or quand il... Tu vois ?
Mais non, il l'a avalé.
Et ben, après, il était par terre.
Oui, mais... Objection, votre honneur.
Il l'a avalé.
Il y a une erreur scénaristique.
Franchement, en vrai.
Elle a
avalé, c'est pas dans les règles, je pense. C'est clairement pas dans les règles.
Si, c'est quand on attrape le vif d'or. Donc, il n'y a aucune. Déjà, il était. Alors là.
Tu n'as pas d'argument, quoi, là.
Ah, mais bien sûr que si. Dans le premier film, il avale le vif d'or.
Et il tombe par terre. Et il montre sa victoire par terre. Donc, ça veut dire que le mec n'est même plus sur son balai qu'il déclare victoire. Non, mais où on est là ?
Mais parce qu'il recrache le vif d'or, Marie.
Parce qu'il triche. C'est un tricheur.
Mais non,
le Harry Potter est un tricheur.
Le vif d'or doit être attrapé en l'air.
Mais c'est pas
ça veut pas dire qu'une fois qu'il est attrapé, son attrapeur doit être en l'air aussi.
Ouais,
une
non, mais ça fait cassos d'être par terre, je suis d'accord.
C'est, ouais, franchement, miskin.
En même temps, il s'est jeté de son balai au risque de se péter les côtes, le ventre, tout ce que tu veux, pour attraper le vif d'or, pour faire gagner son équipe. Bon, il y a un truc pas très sexy où il revomit le vif d'or, mais ça c'est un autre truc.
Voilà.
Et il va pas remonter sur son balai. Son balai, il s'est barré. Donc
non mais c'est pas le centre de l'argument de Marie. Le centre de l'argument de Marie, c'est quand même que c'est un assisté Harry Potter.
C'est un assisté et un tricheur.
Le centre de l'argument de Marie, votre honneur, c'était la triche. Or, il n'y a pas de triche. Assisté, on peut en parler effectivement.
Assisté, et c'est un brawler. Je suis désolée. C'est un petit brawler.
La provoque est présente.
Il fout rien, il attend que ça se passe, on lui donne un truc cuillère dans la bouche, il le prend. Hop, monsieur gagne. Non mais non, ça va.
Et heureusement qu'il est faussement humble, hein, parce que t'imagines, ouais, la fame lui serait montée à la tête, ce gars, il aurait été humblérable, personne n'aurait fait de film sur lui.
Ah mais c'est sûr.
Sauf que pour sa défense, il a 11 ans quand il arrive à Poudlard, donc ça veut dire que pendant 11 années, étant donné qu'il a perdu ses parents quand il avait genre 2 mois, il a été l'esclave de gens, donc il a le droit d'être un petit peu assisté dans sa vie pour rattraper le coup.
Ouais, et tu sais quoi, il aurait pu quand même se barrer de cet endroit. Moi, je suis désolée, mais je trouve que déjà de base, il porte pas un petit peu. Non, non, si.
Mais après, c'est pas toujours possible. Voilà, il faut. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il a le. En fait, moi, ce qui m'a toujours choquée dans Harry Potter, c'est qu'une fois qu'il a trouvé des potes, qu'il a trouvé une école et tout, il retourne quand même là-bas l'été.
Pareil.
Bon. Ça, je suis d'accord, mais du coup, c'est à l'équipe pédagogique d'être incriminé. Ils n'ont qu'à ouvrir l'internat l'été. Moi, je comprends pas le principe de renvoyer des élèves chez eux, sachant que t'as un élève, ses parents, ils sont en hôpital psychiatrique, tu sais pas comment il survit, il a une grand-mère folle. L'autre, c'est Neuville-Long du Bas. L'autre, il se fait battre par sa tante et par son oncle, c'est un orphelin, il est recherché dans le monde entier par les pires sorciers de la Terre. C'est l'équipe pédagogique.
Et l'été, genre, ils sont la bonne vacances.
Oui, c'est ça, vraiment.
Ça n'a pas de sens.
Personne se dit.
Merci Paola.
Je dis que les
bravo, ce retournage de cerveau est complet.
Les choix de l'équipe pédagogique sont à remettre en question. Effectivement, pour tout le respect que j'ai pour Mike Golagan, Dumbledore, c'est des branleurs à ce niveau-là, c'est des branquignoles. Ils prennent pas soin de leurs élèves. La preuve, il y en a une qui est morte carrément.
C'est vrai, carrément.
Donc bon, effectivement, de ce niveau-là, au niveau des personnages, il y a quelque chose à faire. Ils auraient pu tenir Harry Potter en sécurité. Après, finalement, est-ce que le dénouement des films ne fait pas que
pas obligé de rattraper toutes les branches. Hein. Tu peux aussi
acquiescer. Des fois, tu peux dire que j'ai raison, tu vois.
Non, sûrement pas.
Preuve de votre foi totale.
Seigneur Merci des Anneaux, beaucoup, tu l'aurais demandé, je t'aurais dit oui. Mais...
Merci beaucoup, Marie, pour ce retournage de cerveau qui était brillant. Moi-même, mon cerveau est tourné.
Merci beaucoup.
Alors, Paola, c'est à vous, Maître Paola, d'essayer de me le retourner, du coup.
Eh bien, votre honneur, je vais parler d'un film, d'un point commun que nous avons. Le film numéro 5 d'Harry Potter.
Ah, j'aime beaucoup ça.
L'Ordre du Phénix, qui est mon film préféré et peut-être le vôtre.
Peut-être. Elle prend une voix mielleuse.
Alors, tout simplement parce qu'en fait, d'un commun accord avec un ami fan d'Harry Potter aussi, je me suis rendu compte que dans ce film réside sûrement l'une des plus belles scènes d'Harry Potter. Et donc le 5, en fait, scénaristiquement, Harry Potter, après la mort de Cedric Diggory, découvre qu'il y a un ordre qui existe pour combattre les forces du mal, qui s'appelle l'Ordre du Phénix, dans lequel résident de grands sorciers, dont à peu près tous ses proches, son parrain déjà, Sirius Black, qui s'est échappé d'Azkaban, qui est recherché partout, mais c'est un gentil. Lupin, son professeur, qui l'a pris sous son aile dans le troisième film. Enfin, voilà, il y a énormément de personnages, etc. Et donc, dans ce film... ma scène préférée, c'est la scène des buses jusqu'à la scène de la bataille qui s'appelle la bataille du ministère, le duel de l'atrium entre Dumbledore et Voldemort.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ah oui.
Et c'est incroyable. En fait, on est dans un... la scène commence quand les élèves passent leur bus, donc c'est leur brevet, je sais plus quoi, c'est un brevet de sorcier, quoi. Et du coup, ils passent leur bus, surveillé par Ombrage, qui est le personnage le plus détestable de la saga Harry Potter, que nombre de gens détestent. Très fort, d'ailleurs, d'avoir réussi de faire ce personnage, un personnage détestable, à ce point-là, sans qu'elle ne soit à jamais, aucun moment, en pétage de câble, à part à la toute fin, quand elle se fait un peu piéger. Mais c'est un personnage qui est extrêmement sadique en restant calme, et c'est ce qui la rend insupportable. Et ça en fait un personnage féminin très important dans la saga, et très réussi, je trouve. Mais quoi qu'il en soit, il y a la figure d'Ombrage, voilà, autoritaire, etc., qui est représentée à ce moment-là. T'as tous ces commandements-là qu'elle a installés pendant son année, qui sont accrochés au mur de cette salle, enfin, au mur, quand t'entres dans cette salle-là, il est entouré de plein de cadres avec les règles qu'elle a établies. Et les Weasley, quand ils arrivent, ça pète, ça, tous les cadres s'effondrent au même moment qu'on Ombrage est bouffé par le dragon, tous les élèves sortent, etc., c'est la ruée, et c'est un moment d'euphorie incroyable.
C'est un peu le dernier d'Harry Potter.
Et c'est ça, en fait. Mmh. Et c'est ça, c'est là que se joue tout, c'est que c'est le dernier moment d'euphorie d'Harry Potter. À ce point-là, il n'y en aura plus dans les films, il n'y en aura plus aucun, si ce n'est peut-être quand il bat Voldemort, et c'est pas vraiment un moment d'euphorie.
Ouais, tout le monde est pas genre...
Ouais, voilà, oui, on est plus soulagé, il y a eu des morts partout, c'est horrible, bref, c'est pas le sujet, mais c'est le dernier moment, en fait, d'euphorie où t'as un sentiment de satisfaction tellement intense qui se passe à ce moment-là. Et même pour Harry Potter, en fait, c'est le dernier moment d'euphorie, plus que au moment où tous les élèves sortent dans la cour pour admirer la connerie des Weasley, les feux d'artifice, etc., il y a un ralentissement du coup de l'image où tu vois Harry Potter s'effondrer parce qu'en gros Voldemort à ce moment-là lui envoie un message comme quoi Sirius Black, son parrain, donc la personne la plus importante de sa vie, est au ministère, est torturé au ministère, au département des mystères du ministère de la magie. Et du coup, à ce moment-là, il a une vision, il décide d'y aller. Et malheureusement, c'est dans la scène suivante que Sirius Black mourra, tué par Bellatrix Lestrange. Et après la mort de Sirius Black...
Et à ce moment-là, ouais, ça devient vraiment sérieux, parce que c'est la première fois qu'un personnage meurt, un personnage important aussi.
C'est ça, le seul qui est mort, c'était Cédric Diggory.
Ouais, mais bon,
Mimi Géniard,
à
la limite, ouais. On avait un peu compris, mais c'est vrai
non,
que
mais elle
la...
meurt pas devant les
oui,
yeux.
C'est ça.
T'as Cédric Diggory qui meurt devant nos yeux quand même. Mais...
Oui, mais c'était un personnage qui, effectivement, qui était pas important, auquel on n'était pas forcément attaché, qui est apparu dans le film, le numéro 4, pendant les épreuves, etc.
Ouais,
mais
c'était. Il était contre, enfin, il était dans la compétition contre Harry et
c'est
tout,
ça.
Même s'il était sympa.
Il y avait un rapport c'était de rivalité.
C'était pas un personnage principal, alors que Sirius Black qui meurt, ça là, commence c'est... à faire un peu Game of Thrones cette histoire.
C'est ça, c'est la figure de parentalité en fait, dans Harry Potter. La seule figure de parentalité qu'on a, le seul repère d'Harry, le seul lien à sa famille qu'il a, parce que Sirius Black était le meilleur ami de son père, c'est ça qu'il faut savoir. Et du coup, c'est le seul lien à la famille qu'il a, et ce lien-là lui est arraché. Alors, je peux vous dire que moi, quand j'ai compris que Sirius Black il mourait, j'ai pleuré, mais j'ai.
Mais moi, j'ai pas compris. En fait, moi, je me souviens d'avoir regardé le film et j'étais là. Ils ont le droit de faire ça?
Grave. Et puis en plus, il est emporté dans un.
Enfin, d'avoir lu le livre.
Dans la porte, je sais plus comment on appelle ça, dans une arcade.
Ouais, l'arcade, ouais.
Il y a l'arche, un, l'arche ou l'arcade, c'est une arcade blanche qui emporte les âmes en fait. Et du coup, Sirius Black disparaît, genre son corps disparaît.
C'est hyper brutal comme.
C'est
scène.
Ça. Et ça se passe en un quart de seconde. Et même Harry Potter, je trouve que cette scène, enfin la scène de mort de Sirius Black est très bien filmée.
Ça fait deux scènes là, madame.
Ouais, c'est non, ça. Non. J'allais dire, tu règnes un peu là.
Non, d'accord. Ok. Je hein? reste sur.
C'est laquelle ta scène préférée?
C'est en fait. C'est peut-être une articulation entre deux scènes finalement. Mais, mais bon, bref, il est tué. Et en fait, je m'étalerai pas sur la scène suivante parce que bon, j'ai assez dit. Mais de là vient le premier affrontement entre Voldemort, du coup, qui est revenu sous sa forme la plus humaine possible, quand il a la tête de serpent, la moitié là, et un sorcier équivalent à son pouvoir, c'est-à-dire Dumbledore. Donc, c'est un combat qui est historique, qui est incroyable. Et dans les films. Dans les films, je suis désolée, mais les effets spéciaux, c'est un truc de malade.
Ouais, ça commence à être intéressant à partir de ce moment-là, les combats de baguettes. Et moi, mon préféré, c'est celui dans le 6. Non, c'est lequel, le mariage? C'est le 7?
Ah oui, c'est...
Et en fait, les combats de baguettes silencieux. Et ça, je trouve ça...
Ah ouais.
Je trouve ça incroyable. T'as pas de musique qui va accompagner quoi que ce soit. Non, c'est genre juste des jets. C'est franchement, t'as l'impression d'y être, ça ancre le truc dans la vraie vie. Enfin, franchement, c'est très bien.
Oui, c'est ça. Et en fait, oui, t'as raison complètement. Vous avez raison, votre honneur.
Merci.
C'est un des premiers combats de baguettes silencieux. Il y a énormément d'effets spéciaux, mais il y a pas de musique à ce moment-là, par exemple. Il y a très très peu de musique, voire pas du tout.
Et puis la mort est complètement dédramatisée, enfin pas scénarisée, tu vois, genre juste quelqu'un qui meurt, bah c'est parfois hyper soudain, tu vois. Et en fait, ça montre aussi la violence de la mort qui est souvent dans les films ultra mise en scène, surtout quand c'est un personnage important, tu vois, tu vas voir. Là,
elle
tu vois, il crève, il part, basta. Basta.
Il n'a même pas le temps de pleurer. Il a juste le temps de... On voit, moi je me souviens de cette seconde de suspension au moment où Sirius Black est tué. En plus, le sort arrive dans le dos d'Harry. Sirius Black fait face à Harry. Et Bellatrix arrive dans le dos d'Harry et jette le sort. Donc, il voit que l'impact du sort et la disparition du corps de Sirius Black dans l'arche, je ne sais plus comment là. Et en fait, il y a un moment de suspension dans la scène qui est d'une extrême violence. C'est un combat de baguette aussi silencieux à ce moment-là où les Mangemorts et les gens de l'Ordre du Phénix, qu'on appelle les Aurores, sont en train de s'affronter. Et en fait, il y a un rythme qui est hyper, hyper rapide, comme sur la scène précédente, mais en beaucoup plus sombre en fait. Et il y a une accélération dans le rythme, et d'un coup, il y a une seconde de suspension, et après, on revient dans un truc hyper... fort, hyper rapide avec le combat de Voldemort, de Dumbledore et de Voldemort qui, voilà, où tout se passe en un millième de seconde, tu comprends rien. Mais dans la mort de Sirius Black, t'as une seconde de latence, c'était enfin, et je trouve que c'est, vous avez raison, votre honneur, c'est hyper bien scénarisé, mis en scène à ce moment-là. Et donc je conclus ma scène là-dessus, c'est que c'est le moment à Harry Potter pour moi où la scission est marquée, où les films prennent explicitement une autre tournure, où le scénario prend une autre tournure également, et où les personnages vont arriver dans quelque chose de beaucoup plus adulte en fait. C'est la mort de Cédric Diggory, c'était déjà un début parce que bon, une première mort, etc. Il y avait déjà quelque chose d'adulte, mais là, quand l'Ordre du Phénix arrive, les acteurs en eux-mêmes ont déjà bien grandi. Je crois qu'ils avaient quand même 18 piges, etc. Et en fait, ça s'allie parfaitement avec ce truc adulte de la mort d'un proche qui survient et qui te plonge, qui te sort de l'enfance totalement. Voilà.
Waouh.
Bel argumentaire, je dois dire.
Ah.
Je dois dire que franchement, tu as bien bossé le sujet.
De beaux retournages de cerveau. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. On va passer à la dernière partie. Final round.
Fight.
Du coup, c'est l'heure du jugement, la dernière partie de ce procès d'affiché. Vous allez pouvoir attribuer des peines à toute la série de films qu'est Harry Potter. Marie Vrignot, je vous laisse commencer puisque vous êtes maître à l'accusation.
Bien sûr, avec grand plaisir. Alors moi, je vais attribuer des peines, mais aussi des prix, quand même, à ce film Harry Potter. Je commence par les prix, peut-être.
Oui.
Eh bien, je décerne à Harry Potter le prix du meilleur marketing et merchandising.
Un prix ironique, j'adore.
Puisqu'il faut le dire, ils sont bons quand même. Hein. Ils sont bons pour nous faire acheter n'importe quoi. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Ils ont vraiment réussi, en plus de se faire plein de thunes sur les films, à créer un truc encore plus rentable qui est juste de faire acheter des mugs aux gens. Un deuxième prix, qui est le prix de la communauté la plus chronophage de tout l'univers.
C'est des super prix.
Puisque faut le dire, voilà, ils sont partout, ils aiment bien dire qu'ils sont là, ils ont toujours raison, voilà. Donc big up à vous les Potterheads, big up à vous, ma très chère Paola, qui les représentait aujourd'hui avec brio, je veux dire. Et la peine que je vais dédier, la plus grosse peine en fait de cette saga, c'est la peine d'Harry Potter qui est un personnage vraiment nul, sans fond, sans caractère, très ennuyant.
Oui, c'est un prétexte un peu Harry
Potter.
C'est
ça. Ouais, en fait, il fallait quelqu'un, donc ils se sont dit on va l'incarner avec un petit gars avec des lunettes rondes, mimes au début, et puis on se rend compte que finalement il n'y a pas grand chose derrière. Hein. Voilà.
Eh bien super, merci beaucoup, merci Marie pour ces peines.
Vous remarquerez, j'ai quand même mis plus de prix que de peines.
Oui, c'est vrai. Bravo.
Merci. Avec brio, je dois dire également. J'ai oublié les prix et les peines. Du coup, je vais improviser.
Waouh.
Mais du coup, ça va me permettre en fait de ne pas rester sur mes comment on dit présupposés.
Laurier. À qui Je sais pas. Ce que tu cherches.
Comment on dit quand on rencontre quelqu'un qu'on connaît pas et qu'on a des préjugés. A priori. Je ne vais pas rester sur mes a priori, quant à votre argumentaire, je vais le prendre en compte pour attribuer des peines et des prix, puisque je vais attribuer des peines et des prix également. Je concède, non sans vous laisser la victoire, et vous avez été de mauvaise foi à ce niveau-là, Madame Vrignot, puisque je suis sûre que mon argumentaire vous a convaincu sur quelques points du moins. Je concède que la figure d'Harry Potter n'est pas la plus charismatique des films, donc j'attribue le prix Harry Potter de... la peine plutôt en fait. J'attribue la peine à Harry Potter des personnages secondaires plus charismatiques que le personnage principal à bien des endroits. En revanche, au niveau des prix, alors là ça va y aller. Au niveau des prix, j'attribue à Harry Potter le prix de la plus grande. De. Comment je panique. Le prix, comment je peux dire, je perds mes mots.
Prix Nobel.
Prix Nobel, oui. Prix Nobel de la plus grande capacité à créer une communauté avec des valeurs assez cool, je dois dire.
C'est vrai que les Potterheads, on n'a pas trop dit, mais ils sont gentils.
Ils sont gentils.
Les Potterheads sont des personnes.
Ils sont chronophages.
Ils sont trop poufsouffles, du coup.
Ils sont trop.
Oui, la plupart des Potterheads sont des poufsouffles, bien sûr. Parce que les Serpentards ne s'intéressent pas à Harry Potter en réalité.
Oui.
Je tiens à le dire.
C'est vrai.
La preuve en image est pour vous en son. De la communauté la plus. La communauté la plus gentille d'envergure de notre cher monde, les Potterheads. Sont des gens très sympas, même s'ils achètent des produits dérivés qui peuvent satisfaire en soi la joie qu'on a à aimer une œuvre, tout simplement.
Je décerne également. Capitaliste.
Ouais, non, totalement pas. Je vais dire voilà, mais non, c'est pas capitaliste, c'est artistique. Je décerne également à Harry Potter le prix de la plus grande cohérence scénaristique et de réalisation.
T'exagères là.
La juge est de mon côté.
Je peux pas l'accepter celui-là. Non. Ça c'est trop de mauvaise foi. C'était le début la mauvaise foi. Maintenant
Au niveau de la cohérence, je trouve que les films restent cohérents avec l'œuvre de l'auteur, même s'il y a énormément de contenu qui est supprimé et qu'on redécouvre une œuvre, mais ça reste cohérent. On comprend la plupart des choses.
Non.
Votre honneur,
Non, franchement, je peux pas accepter ça. C'est vraiment truc que tu peux reprocher à Harry Potter, c'est d'être incohérent et d'être pas respectueux du scénario.
Ça, tu peux reprocher aux Animaux Fantastiques. C'est totalement incohérent, ça, je suis très d'accord. J'aurais descendu les Animaux Fantastiques.
Ne divagons pas, nous ne sommes pas sur les Animaux Fantastiques, nous sommes sur Harry Potter.
Justement, pour moi, Harry Potter, ça reste quand même une œuvre qui est cohérente et qui est, ça aussi, c'est un prix qu'on peut lui attribuer, une des œuvres les plus attachantes de la décennie, voire du siècle. Parce qu'au niveau de l'attachement, on a grandi. Avec, c'est quand même une des seules sagas où on a grandi sur 10 ans avec les acteurs, où les films étaient attendus et les acteurs également, où les plot twists, tout ce que tu veux, étaient attendus et les suites du scénario étaient attendues. Et je trouve qu'il y a une cohérence qui a été gardée et un attachement qui a été gardé.
Il
n'y
a vraiment aucune cohérence. Vraiment, il y a 4 réalisateurs différents.
Mais justement, ça crée la richesse.
Oui, mais c'est pas une cohérence. Tu peux pas dire que c'est cohérent.
Mais
c'est
si,
riche.
Comme je le disais, l'évolution par exemple, des couleurs dans les films est une cohérence en soi.
Bah, je suis pas d'accord.
Et aussi, dans les films, il n'y a pas d'aspect technologique. Il n'y a pas d'aspect technologique alors que le monde a évolué et je trouve qu'ils ont réussi à très bien gérer ça, l'évolution technologique et numérique du monde réel, donc dans lequel le film a été produit et réalisé, et l'évolution du monde d'Harry Potter, en fait, qui ne voit pas trop cette numérisation et cette technologie, en fait. Et je trouve qu'ils sont restés très cohérents à ce niveau-là pour que ça paraisse réaliste et que ça ne soit pas obsolète. Voilà. Donc ça, je tiens à le souligner. Et enfin, bah, je décerne à Harry Potter le prix de la saga qui a conquis mon cœur, tout simplement.
Très peu objectif. Ça, on peut l'accorder.
Oui, qui a conquis mon cœur et qui a su en faire de moi une Potterhead pas confirmée, malheureusement. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas sur Harry Potter. J'ai dû dire beaucoup de bêtises. Mais et alors, finalement, Harry Potter, n'est-ce pas ça? Et mes loves sans la connaître entièrement.
Voilà. Magnifique.
Pas du tout, mais pourquoi pas. Merci beaucoup à toutes les deux, en tout cas, des très belles peines. Il y en a qu'une seule que je rejette, du coup. Vraiment, super. Celle de la cohérence, je ne peux pas accepter ça. Mais surtout au niveau des films. Mais je vous remercie d'avoir participé. C'était un affiché terrible et combatif et grandiloquent pour ce dernier épisode de la saison. Merci. Merci à vous tous.
Merci Anix,
merci
Paola.
Beaucoup votre honneur, Alix.
Merci votre honneur.
Merci Marie Vrigno de votre honnêteté.
Merci
et de votre argumentaire.
Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté ce tout dernier épisode de la saison pour afficher. N'oubliez pas, comme d'habitude, de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, ainsi qu'un petit commentaire pour nous dire que vous aimez ce podcast plus que votre propre mère. Et on se donne rendez-vous à la rentrée pour un nouvel épisode du meilleur podcast Affiché.
Sometimes the transition to fall and winter feels like experiencing every season on the same day. The shoes in the Allbirds Mizzle collection were made for misty morning walks, surprise snow days, and anything a trip to the dog park might bring. The whole collection brings together water-repellent technology and classic style, so you can stay warm, dry, and comfy during your everyday adventures. Check off your errands with the Wool Runner Mizzle. Dash through cold and wet weather with the Wool Dasher Mizzle. Or upgrade to next-level protection with the Wool Runner-Up Mizzle Plus. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. allbirds.com, code FRESHSOCKS.